Eh bien maintenant, passons de la théorie à la pratique. Mettez le contact et passons à la conduite.
Entendu, monsieur.
De quel côté s'effectuent les dépassements ?
Les dépassements s'effectuent à gauche.
Je mets la radio ?
Volontiers.
Paris Pluriel et l'International Les Twists présentent en un virage direct à gauche au fond du vouloir l'opération Kangourou. Une action commando menée sans lendemain et sans maître par les grosses paluches du dérailleur et les deuils poilus du colonel. La bande à infâme remontée comme des pendus renvoie dans les cordes de la stratosphère les classifications des marchands du sample. L'opération Kangourou sans anesthésie autre que l'alcool.
Opération Kangourou Viterien, l'émission des pauvres qui fout la trouille complètement à côté de la FNAC. Avec, dans le rôle de la barbouille, le peintre du jeudi, et on discute pas, le colonel.
Bonjour.
Et dans celui qui se met à corbière parce que ça m'énerve, moi, le dérailleur.
Salut.
Dernière saucisse avant la choucroute de l'opération Kangourou, liquide les conserves, ne conserve aucun liquide pour la dernière ligne moite. Production Phil Steakport du bon vieux temps du RMI. Ah, le bon vieux temps du RMI, comme chantait, bon, vous le connaissez. L'opération atomise tout sur le rouge. Forage de tête, esprit Attila. En un mot, commençons, colonel, vous êtes prêts?
Ouais.
C'est dit pas!
Bonjour mon cher dérailleur.
Eh bien bonjour mon cher colonel, avec aujourd'hui une première partie Kangourou, Canton Continuum. Il s'agira d'un entretien avec Le Bon à propos de Jeffrey Lee Pierce, le tout épaulé jeté par notre caution, je ne dis pas le prix, notre caution rock, SF Tacitus, Soro, Seb, enfin je ne sais plus comment vous appelez en fait. Voilà, mais ne perdons pas une seconde avec la séquence psychodescriptative, séquence du spectre acteur, la pochette sous les yeux. On vous écoute, colonel.
Eh bien, pour commencer cette émission, deux disques exotiques, nous allons appeler ça comme ça. Le premier est plutôt guyanais. La pochette, c'est une carte géographique avec des fleuves, des chemins, des villes, le nom des fleuves, le nom des chemins et tout ça. Et en surimpression, un chercheur d'or. À chemise à carreaux, très joli disque Venevox, c'est un 33 tours, plus petit mais pas moins joli, c'est Aventurin Cyril, un disque Cellini fait avec du papier gommé de beaucoup de couleurs, du vert, du jaune, du rose, du rose, du orange, du rose et du vert et du noir. C'est découpé, c'est collé adroitement, c'est fait au ciseau, hein, c'est d'avant Photoshop, et le lettrage est fait quant à lui carrément au crayon de papier. Ensuite, séquence rock'n'roll avec Elvis. Vous connaissez tous Elvis, bien sûr. Alors, c'est
ouais.
Elvis Presley, hein, c'est un Américain d'où déjà ?
De Tupelo, Mississippi.
Ah, de Tupelo, voilà.
Vous voyez, je savais qu'on avait fait
l'amener. Alors là, il pose, alors c'est un gag, hein, c'était un plaisantin, il pose dans un cercueil un peu à la,
à la Bela Lugosi.
Il est marrant, marrant comme tout, et puis il fait semblant de dormir, et enfin, bon, c'est Elvis, quoi, et on entendra un super morceau. La pochette, à part la photo, n'est pas plus intéressante que ça. Dans le rock, ça commence avec Elvis, ça enchaîne avec Jackie Noguez, accordéoniste des années 60. Jackie Noguez joue avec un orchestre qu'on peut appeler Mods, vu qu'ils ont des soupules à col roulé et des costards, des blazers noirs et des instruments de musique électrique, on peut le dire, hein, guitare, basse, orgue. C'est Jackie Noguez, son orchestre et son accordéon qui reprennent le responsable de Jacques Machin, le mari de Françoise.
De Françoise Laurel. Ouais.
Voilà, c'est ça, les Laurel Hardy du mode français. Milva por amor, Milva pose sur un tabouret de bar. C'est peut-être pas la première fois. Elle tente d'enlever ses chaussures. Elles vont bientôt tomber, mais pour la pochette, elle garde ses chaussures quand même. Et bon, voilà, il y a trois gommettes, une noire, une rose, une verte. Pas plus intéressant que ça. Un truc très intéressant, mais indescriptible.
On en a pour une heure.
C'est un dessin qui essaye de recréer l'effet du fish eye. Et c'est tellement bien fait qu'on ne reconnaît pas l'objet qui est censé se refléter.
C'est un taco, non ?
Se refléter là-dedans. C'est une voiture, oui. Et donc, du coup, on voit et l'avant de la voiture et l'arrière de la voiture. Et le dessinateur en a profité pour écrire mono stéréo sur le pare-choc. C'est une astuce. Exotic Moog, Martin Denny, j'ai pas la pochette.
Ah, je pensais que c'était l'album blanc, mais...
Non, j'ai pas la pochette. Par contre, j'ai Guy Petersen et son grand orchestre, une femme qui est habillée avec des rondelles de plastique en forme de robe. Elle danse et on aperçoit qu'elle a une jambe tendue sur laquelle elle repose. Elle a une jambe pliée. Et sur la jambe pliée, on se rend compte qu'en fait, elle a des collants et qu'elle n'est pas nue sous sa robe.
C'est un collant couleur chair ?
Ouais, couleur chair
blanche. Vous êtes sûr que ce n'est pas de la cellulite ?
Non, non, je ne pense pas. Ça fait des lignes. La cellulite, ça fait des bourrelets. Voilà, donc, elle n'est pas nue sous la robe. Et Krug, alors Krug, ce n'est pas une marque de champagne, c'est un chanteur allemand de DDR. Et qui chante du grave groove, hein. C'est la dernière séquence de l'opération Kangourou, avant la demi-heure, si on a le temps, c'est la séquence grave groove avec Krug qui pose en blouse en cuir comme tous les réalisateurs allemands de l'époque, c'est-à-dire fin 60, début 70, blouson de cuir, chemise, il pourrait jouer le rôle d'un commissaire ou quelque chose comme ça à la télévision.
Ça tombe bien, c'est ce qu'il a fait pendant 30 ans de sa vie. Donc.
Voilà. C'est tout pour les pochettes.
Voilà qui est fait, on est très en retard. Donc El Careo del Pamerito, Mi Kirpa, Venezuela, il y a de l'action. Je vous ai dit, j'avais prévenu notre invité, on va rigoler. Hein. C'est le jeu des Chavez musicales avec El Careo del Pamerito, con el Curanto de Rosarito Romero, amnésique centrale de la discothèque oubliée de l'opération Kangourou, c'est Tipa.
¡Suscríbete al canal! pa konen te jowe bon instrument. Depi mwen maye epi mon igla. Depi somen madame mwen koupe. Papa lese sakson la a mwen. Mwen chéri, bon mwen on se don. Avec mon joli saxophone. Aïe, laissez-moi tranquille. Il me rappelle inutile, chérie. Aïe, dit que ma jolie. Il dit c'est ça qui vole la vie. Aïe, chérie. Aïe, aïe, aïe. Quel soir me couche à Papa Noël. Ma pose tête à moi, bien tranquillement. Madame, moi, comment c'est chatoué, moi. Il dit doudou pour moi, votre instrument. Et puis, de manière, il soulevait mon saxophone. Mon tiré, dommage, mon sozo. Laisse ce saxo-là. C'est l'œil de me coucher pour tranquillement. Aïe, laissez-moi tranquille. Il me va parler inutile. Aïe, dit que ma jolie. Il dit c'est ça qui vole la vie. Aïe, 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 aïe.
Il s'agissait d'Abel Zénon, et oui, avec le titre Monique, le plus fort tirage des Antilles françaises, on comprend qu'il soit fatigué. On passe à Elvis, alors là je suis coincé entre au moins deux fans d'Elvis, entre Seb Soro et le colonel, un troisième, le bon. T'aimes Elvis toi ? Francis aussi, deux bons. Le bon de bon. Et donc, Wolf Kohl, alors par cœur, je connais le colonel par cœur. Enfin, il a son Elvis dans l'opération. Elvis, c'est le roi du rock'n'roll, tu l'as dit, Bouffi. En fait, c'est un gars bien jordanaire, Elvis, un petit gars du...
Attention à ce que tu dis.
Oui, je fais gaffe. Hein. D'ailleurs, comme on dit, un jordanaire, ça va, trois jordanaires, bonjour Las Vegas. Connaissiez ce dicton ?
T'as planché longtemps là-dessus ?
Enfin... Au moins une bouteille.
Au moins une bouteille.
Donc...
10 minutes, quoi.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Wolf Kohl de Elvis ?
Bah, pas grand-chose, parce que je ne savais même pas qu'on l'a passé. Mais il me semble que c'est la... Enfin, j'en suis sûr que c'est la... un morceau qu'il chantait dans ses fameux films du milieu des années 60.
Alors, pour l'auditeur jeune...
Ce qui explique la qualité du morceau.
Non, pour l'auditeur jeune, ce n'est pas Elvis qui chante, c'est Jesse.
Oui.
Puisqu'on rappelle, on rappelle
brièvement. Hein.
On rappelle brièvement.
Parce que l'auditeur a déjà entendu 5 fois, premièrement.
Donc voilà, Elvis Presley, bon, amène le rock'n'roll, c'est la révolution, le pouvoir tremble, les gens font dans leurs pantalons et tout, un noir qui chante comme un blanc, enfin, ouais, vous voyez tout ça. Et donc, la mafia avec le colonel Parker, la mafia de Memphis, dit on va. Donc on retrouve le frère et jumeau de Elvis qui n'était pas mort, qui était Jesse. Et voilà, et donc on met Jesse, et donc Jesse, par contre Jesse, c'est pour ça qu'on le sortait pas, complètement incontrôlable, et il fait toutes sortes de facéties, des films, son service militaire, des morceaux ridicules. Et il y a un moment, c'est que Jesse se ridiculise tellement que ça nuit à l'image de Elvis, et là pour le comeback spécial,
en 68, on rappelle
Elvis, et là Elvis revient, et là c'est un tel choc qu'on rappelle Jesse qui fait Las Vegas. Vous connaissez cette théorie ?
Non.
Il y a quand même 3 ou 4 livres là-dessus, je vous en prêterai un.
Non, j'ai vu Boba Hotep au cinéma, mais c'est pas la même théorie.
C'est encore une autre théorie.
C'est encore une autre théorie.
Et donc voilà, donc c'est Là, c'est noté Elvis Presley, mais en fait, c'est Jesse Garon qui chante, puisque c'est la période où Jesse chante, mais c'est pas officiel en fait, c'est avec toute cette histoire.
Mais c'est aussi bon que du Elvis. Hein.
Ah, c'est, on dirait presque Elvis. Et on enchaîne avec Jackie Noguez, non ?
Ouais.
D'accord, eh bien, Elvis et Jackie Noguez, c'est ça le rock'n'roll, c'est y part.
Ok, here we go. This is GOV take 4. Let's go.
Flip flop or kayak, what a cutie pie I see. Hoop shoop a doo, lips of honey, that's for me. Shim shim shimmy, wanna howl and shout. I'm out to get you, baby, there's no doubt. I saw you standing against the wall.
Whoa.
I whistled and I gave my all.
Oh.
Now don't tell me you don't fall for that wolf call. Just a little kiss will put me in a whirl. I'll have a whistle, baby, and another girl. You love me, well, we'll have a ball.
Ball.
Why do you try to stall?
Stall.
Now don't tell me you don't fall. For that wolf call. For that wolf call.
We'll be right back.
Eh bien, c'était Jackie Noguez, le responsable de ce classique de l'accordéon garage qui donne des boutons aux affreux Lanzmann et Dutron trop occupés à partouser avec la mère Pompidour.
Un soufflet à la variette de l'époque.
On passe à tout à fait autre chose avec Milva, 10 cheveux de feu en Italie. L'Italie de l'autre côté des Pyrénées. Uno come noi, c'est Tipar.
Non ti curare di quelli che ti guardano per strada, lanciando occhiate che sono più taglienti d'una spada. Non san capire che la tua vita non ha padroni, non si comprerà. Tu lascia pure che dicano di te ciò che gli pare, e solo invidia non hanno più il coraggio di cambiare.
Yeah. On passe à la séquence, il y a du Moog dans le Korg à Neu, vous savez Neu, le groupe Kraut. On débute avec Gérard Cohen et son AG Wells Machine. Alors là, on a un spécialiste de la machine à remonter le temps.
Oui, c'est moi, non?
Ouais, ouais. Je parle pas physiquement.
Non, j'étais en train de me servir un verre.
Ouais. Et là, il serre le verre à l'envers, c'est magnifique.
C'est donc la machine à remonter le temps.
Ouais.
Il fait ça comme en 1905.
Voilà. Avec la cuillère, il fait fondre le sucre et tout, c'est absolument magnifique. Donc un film,
oui. Ça va plus ou...
Bah non, mais avant d'être un livre, La machine à remonter le temps était un film.
Oui, bien sûr.
Je sais pas
oui.
Si vous vous souvenez. Après, il y a eu une adaptation de H.G. Wells. À mon avis, ça doit être du Philippe Jean. Enfin, voilà.
Après, il y a eu la vraie machine sous Léonard de Vinci.
Voilà, voilà, nous remontons le temps dans cette description. Je pense qu'il y a des idiots qui n'ont pas saisi le concept de remontage de temps.
C'est l'époque où on remontait le temps. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une montre, je la remontais. Mais maintenant, ça marche tout seul.
Avec les montres à quartz, c'est complètement fini. Alors là, avec tous ces cristaux qui voilà.
Liquide.
Ouais, voilà, et puis... C'est le côté liquide, parce qu'il y a aussi tout le côté cristaux qu'emballent les ponts et tout. Enfin, voilà, toute cette modernité.
Les ponts.
Voilà, surtout les ponts, oui. Donc, on parlait du film La machine à remonter le temps. Donc, moi, je me souviens, il y a une fille qui était pas mal, mais c'est pas les Morlocks, c'est une autre.
Non, hein. Ah, c'était Yvette Mimieux.
Ah, Yvette Mimieux.
Et voilà, sa petite tenue.
On n'a jamais fait Mimieux.
Bah, on peut pas dire.
Et donc, elle était violée par les Morlocks. J'ai un souvenir assez vague de ce film.
Le groupe ?
Ouais, le groupe Les Morlocks.
Pas étonnant.
Ouais.
Pourtant, ils n'ont pas l'air vaillants, je les ai vus.
Justement, ils ne peuvent pas se faire une fille normalement, je pense. Donc, viol est obligatoire.
Ouais, c'est vrai qu'avec la tronche qui est... Bon
allez, là,
c'est un autre... Donc voilà, alors il remonte le temps, c'est le paradis terrestre. Et en fait, le paradis terrestre, c'est l'être humain sert de gibier aux Morlocks.
Voilà.
C'est vraiment le paradis, en fait.
Ouais, enfin pour les Morlocks, quoi.
Ah oui. Bah, il y a un truc, chacun s'identifiait, les gens qui s'identifiaient à Danny White, à Brett Sinclair, moi je m'identifiais aux Morlocks quand j'étais jeune.
Ah ouais, bah t'as pas dû beaucoup changer.
Bah non, je veux dire, bah ça aide. Hein. Faut dire que physiquement j'étais aidé.
Ouais, tu fais plutôt Morlock que Rod Taylor, en effet.
Rod Taylor, c'était lequel?
Bah c'est le héros.
Mais je me souviens qu'il est en costume, t'es sûr qu'il est en robe, Taylor? Oh là là, mais c'est un festival. Donc, on se...
Mais qui alors... se souvient des héros aussi.
Voilà, donc c'est... Voilà, on se souvient que des Morlocks. Quoi. Donc, c'est un hommage à E.G. Wells Machine, et on se déchaîne avec Martin Denis, son Delilah. D'ailleurs, le colonel, toujours à l'affût de tout ce qu'il peut faire du potin, me confiait dernièrement que le poinçonneur de Delilah n'était autre que Tom Jones. Ah, on reconnaît l'esprit gallois du colonel. C'est y part. We'll be right back. Séquence grave groove, on est très en retard, colonel, puisqu'il en faut aussi pour les jeunes trentenaires bien tapés, genre super fric. Avec par ordre d'aberration, l'affreuse bande à Jagger, heureusement transfigurée par un Guy Pedersen chamboulant, suivi de très près par un Krug qui fait des bulles. Dans la langue du funk, vous êtes prêts, colonel ? Ouh, le funk ! Le germain, donc le germain dit la langue du cousin Peter, c'est y part.
Nerven. Ich versprach dir hundertmal, dass beinahe gar nichts mit ihr war. Nur höchstens nahm ich ihr feuerrotes Haar ein bisschen, bisschen für sie ein. Und dass ihre beiden Sommersprossen mir gefallen, hab ich ihr gesagt. Und ob sie mit mir ausgeht, ja, das hab ich sie auch mal gefragt. Wirklich weiter war nichts. Glaub es nur, weiter war nichts, gar nichts. Nein, es war nichts, gar nichts. Und wenn du's nicht glaubst, ja, dann musst du's lassen. Lass ab, hör auf damit, das geht mir auf die Nerven. Hör auf, genug davon, das geht mir auf die Nerven. Ich versprach dir hundertmal, ich habe nichts mit ihr gehabt. Nur höchstens, was ihren Küssen so begab. Und was war... Was war schon dabei? Und dass ich sie in Mini besser als in Maxi fand, das hab ich ihr gesagt. Und ob ich ihretwegen Ärger mit dir kriege, das hat sie mich gefragt. Wirklich, weiter war nichts. Oh, nichts zwischen uns. Glaub es nur, weiter war nichts, gar nichts. Nein, es war nichts. Gar nichts. Und wenn du's nicht glaubst, ja, dann musst du's lassen. We'll be right back.
damit, das geht mir auf die Nerven. Oh, 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 hör auf, genug davon, das geht mir auf die Nerven. Ich versprach dir 100 Mal, ich habe nichts mit ihr gehabt. Nur höchstens, was ich im Küssen so begabt. Und was war schon dabei? Und das ist sie in Mini besser als in Maxi Fan, das habe ich ihr gesagt. Und ob ich ihre wegen Ärger mit dir kriege, das hat sie mich gefragt. Wirklich, weiter war nichts. Uns. Glaub es nur, weiter war nichts, gar nichts. Nein, es war nichts, gar nichts. Und wenn es nicht glaubst, ja, dann musst du es lassen.
Voilà, séquence grave go. Pour le coup, vraiment grave. Donc nous recevons Henri-Jean Debon. Je l'ai bien dit là.
Nickel.
Pour la sortie du DVD, je l'ai pas parce que ouais. Quand c'est en anglais, il me faut une liste du DVD.
C'est plus difficile que l'allemand. Hein.
Voilà, vous êtes prêts pour l'accent ? Ça va être à peu près avec l'accent allemand. Donc, il est où le mot ?
Courage.
Alors,
Hardtime Killing Floor Blues. Par contre, je voudrais bien une traduction.
Vous êtes né où ?
Exact. Je suis né dans les Ardennes.
Ah bah, je vois ça, ouais. Il y a un truc.
Proche de la Belgique, vous avez proche de l'Angleterre.
Bah, vous avez été libéré avant nous, parce que alors là, l'accent anglais, bravo.
Ah, mais je ne suis pas resté longtemps aussi.
Donc, Hard Time Killing Floor Blues, je l'ai bien descendu. Merci. Donc, une traduction, cher Henri-Jean.
Elle est quasi impossible, en fait. Ça veut dire.
Valait bien
truc...
la peine de vous inviter.
Ouais, déjà, ouais. Mais non, ça pourrait vouloir dire un truc du genre les temps sont durs, je suis collé à ce putain de parquet.
Ah ah.
Voilà.
Parquet flottant.
Ouais, manifestement. Ben, on en reparlera d'ailleurs du coup.
Ah, ça vient d'un titre de blues.
Ça vient d'un titre de Skip James, ouais.
Voilà. Voilà.
Ah, t'as dit de blues, mais tu savais pas de Skip James, hein.
Ah, si.
Ah, si, tu savais, en fait.
Ah, vous laissez parler les invités, parfois.
Voilà. Donc, voilà, une sortie vidéo, mais en fait, c'est une sortie DVD. Parce que je dis ça, parce que pour moi, une vidéo, c'est pas ça, mais bon... Voilà des détails sur lesquels on va passer. Donc, bon, on va pas présenter Geoffrey Lipierre, c'est le Gun Club, hein, on a affaire à des idioteurs intelligents. Donc c'est une interview non pas vraiment une interview,
pas du tout,
plutôt une rencontre, je sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs.
Ni une interview ni un portrait non plus, parce qu'il y avait pas la matière pour faire ça, mais c'est un moment.
Oui, il était filmé quoi.
Un truc comme ça, ouais. Voilà.
Donc moi je l'ai vu parce que comme je suis le roi de la description de l'image à la radio, j'en dirai rien. Moi ça m'a beaucoup déprimé parce qu'un alcoolique que sa femme vient de quitter, il y a des choses qui me parlent comme ça. Des choses que j'aurais pas dû regarder. Non, voilà, donc c'est Geoffrey Lipierce. Alors c'est en 80, j'ai pas ça en tête, c'est 92, c'est ça ?
En fait, c'est marqué 94, mais je suis tellement horrible avec les dates et tellement mauvais qu'en fait, c'est 92, la vraie date.
Ah ouais, je sais pas comment j'ai deviné ça. Une espèce...
Bah écoute, bravo.
Mais je crois que j'ai dû regarder le papier peint, j'ai dû me dire c'est 92. Et donc, il habite c'est à Londres.
Ah ouais.
Parce qu'il y a un truc, je peux le dire, j'ai regardé ton film, mais je l'ai regardé complètement bourré. Ce qui fait que je crois que j'ai compris des choses, mais par contre, il y a une espèce de dissension du temps. Il y a peut-être des scènes, quand je vais t'en raconter, que j'inverse. Donc, je me souviens que c'est à Londres. Je me souviens qu'on voit des amis à lui au pub.
C'est même pas des amis, mais sinon, c'est bon. Enfin, c'est des gens qu'il croisait chaque jour, en fait. On a l'impression qu'il les connaît, mais il les connaît pas tellement, en fait.
Mais quand tu croises des gens chaque jour, ça devient des amis.
Ouais, mais c'était jamais les mêmes, en fait.
Ah ouais ? Non. Il se trouve que ce moment-là, c'était... D'accord.
Voilà, c'était les piliers du jour, en fait.
Donc, on le voit au pub, on le voit chanter. On voit chanter du Jacques Brel.
C'était pas si bourré que ça, en fait. Non, c'est bon.
Ah bon, c'est ça ?
Non, c'est bon.
C'était bien Jacques Brel.
Et c'est quel morceau de Brel qui chante ?
C'est Amsterdam.
Oh. Et c'est vachement mieux
qu'Arnaud. Enfin, c'est Amsterdam version Bowie, en fait. Je sais même pas s'il a déjà entendu l'original, mais je crois que oui. Mais en fait, il se rappelait surtout de la version de Bowie, que moi, j'ai jamais entendu, mais qui, paraît-il, est assez connue.
Oui,
tu connais ça, toi ?
J'ai déjà entendu, il me semble. Ouais, alors,
bon, bah, t'as affaire au fan club de Bowie, ouais, là, vraiment, t'es bien tombé.
Moi, j'ai déjà entendu. Fan de Bowie ici.
Ah, t'as entendu aussi Bowie ?
Ouais, je l'ai entendu quand j'allais en vacances en voiture avec mes parents.
Bah, ça, dans les Ardennes, il n'y a pas grand chose. Hein.
C'était à la radio. Hein.
Heureusement qu'il y a la radio dans les voitures dans les Ardennes.
Donc voilà, ça sort chez Chose Vue. Je dis ça parce que. Il y a le président directeur des établissements Chose Vue, monsieur le comte. Donc voilà, on le dit, c'est en vente. On le dit aussi, non ?
Ouais, c'est officiel.
Toi, tu l'as pas payé, donc un peu de discrétion là-dessus. C'est en vente, je sais pas, à Bornbad, par exemple. T'as la liste des.
Ah, c'est déjà la fin de l'émission.
Surtout sur les disquaires indépendants. Quoi.
Disquaires indépendants, me dit-on, du côté de la direction.
En VPC,
voilà. Donc ça doit vouloir dire en vente par correspondance, une espèce de club dial. Donc je ne sais pas, vous achetez le DVD de Jeffrey Lee Pierce et après vous pouvez avoir une compilation d'études de Jeffrey Lee Pierce ou synthétiseur, ouais. Enfin des choses comme ça.
En fait, mec, tu vas sur le net et puis tu ajoutes à ton panier, c'est tout.
Ouais. Alors tu vas sur le net chez Chose Vue, mec, si j'ai compris.
Yes.
Voilà. Alors chez Chose Vue, tu l'achètes. Parce que on va pas, il y a un truc, c'est comme sur Libertaire. Là, on parle cash. On va pas engraisser tous les intermédiaires et tout. On va filer directement le pognon aux potes là, ouais. aux potes de chez Chose Vue. Voilà. Donc vous allez sur le site de chez Chose Vue et voilà. Et l'argent va directement dans l'escarcelle de Monsieur le Comte et de Monsieur Debon.
Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec vous, mon cher dérailleur. Je pense qu'il faut faire une petite mise au point
sur
à
Jeffrey
partir
Lee Pierce.
De 1980 et du Gun Club et de Jeffrey Lee Pierce pour l'auditeur. Qui n'aurait pas ça en tête. Et là, je compte un peu sur monsieur Seb.
Ou allez. Monsieur.
Oh,
allez,
sur moi.
Oui, allez, vas-y. Vas-y.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Gun Club
Non, on ne t'en dira pas comme ça.
C'est pas mal.
Je sais pas, le Gun Club, c'est un groupe qui s'est formé au début des années 80 à Los Angeles avec donc monsieur.
Non, c'est pas Los Angeles, c'est Montebello.
Non, il est né à Montebello, on m'a dit donc le groupe c'est Monte. Non, j'ai vu monter personne.
Ouais, voilà.
Oui. Avait donc monsieur Jeffrey Lee Pierce, personnage bien connu à l'époque, vu qu'il écrivait dans les bouquins, genre dans les fanzines de l'époque, genre Slash. Il était également président du fan club de Deborah Harry, enfin de Blondie, mais surtout de Deborah Harry.
On comprend, ouais.
Et on comprend.
T'appelles ça président du fan club, toi ?
Ouais. Était monté même plusieurs fois à New York pour essayer de se la faire. Visiblement, ça n'a jamais marché.
Donc, il n'est pas vraiment monté.
Non. Enfin. Voilà, que dire d'autre.
Voilà, que la différence d'audience. La seule différence avec les grosses têtes, c'est l'audience, en fait. Ouais. On peut déjà dire ça. Non, sinon, en fait, il y a un truc marrant avec le Gun Club, c'est qu'effectivement, c'était la rencontre entre deux présidents de fan club, qui étaient Jeffrey Lee Pierce de Blondie. Et Kid Congo Powers, qui était des Ramones.
Voilà, Kid Congo Powers, qui a toujours fait partie, qui est resté jusqu'à la fin des amis de Jeffrey Lee Pierce, et qui était un des membres fondateurs à peu près.
Qui était le membre fondateur
et qui a quitté après, avant le premier album, qui est revenu après deux ou trois fois, qui a fait partie plus ou moins de toute l'histoire du Gun Club, mais avec des allers-retours.
Et aussi de celle des Cramps et de celle de Nick Cave.
Les allées étaient entre les Cramps et les Bad Seeds de Nick Cave, notamment. Voilà. Et il est toujours en activité. D'ailleurs, on a pu le voir à Paris deux fois ces dernières années et on espère le revoir bientôt parce qu'il est toujours très très bien.
Tu vois, ça, c'est la différence avec les grosses têtes, c'est que déjà, il y a des sacrées références, puis en plus, il y a un moment, c'est le membre fondateur, on fait pas de blague. Tu vois, ça, alors que les grosses têtes, ils se seraient pas pris. Voilà, je remets les choses à leur place.
Donc voilà, le Gun Club a eu une carrière assez erratique en enregistrant, je sais pas, une bonne douzaine de LP à peu près, ça doit être ça, comptant les lives.
Et on va dire que le Gun Club, c'est Jeffrey Lee Pierce, parce qu'après...
Le Gun Club, c'est Jeffrey Lee Pierce.
Après, c'est un peu changeant, la composition.
C'était complètement changeant, c'était assez incroyable.
Ah bah, jusqu'à ce qu'on voit en fait, dans le film, qui étaient les piliers du jour, les piliers de barre du jour, qui faisaient office de membres officiels du Gun Club.
Donc, ouais, sauf que dans les années 90, il tournait plus tellement sous le nom du Gun Club. Il avait quand même la décence de s'annoncer sur son nom.
Non, il y a beaucoup de concerts ensuite du Gun Club dans les années 90.
Ah oui, il appelait encore le groupe Gun Club. Avec les piliers de bistrot de Londres, c'était le Gun Club aussi.
Ça change à peu près à chaque concert, mais il y a eu quand même une période assez stable avec Romy Mori, dont il est question dans le film.
Beaucoup.
Et beaucoup, ouais, puisqu'elle venait de partir. Et avec Nick Sanderson, le batteur, qui est. Il est assez question aussi, et qui est mort il y a une dizaine de jours. Voilà.
Une dizaine de jours ?
Ouais.
Ah, merde.
Voilà. C'est fait.
Nous l'ignorons. Voilà,
c'est foutu de vachement moins grosse tête, c'est sûr.
Ouais, voilà. Il y a des hommages à Carlos dans la grosse tête.
C'est carrément triste.
Donc, est-ce qu'il parle de Rimbaud, Jeffrey Lee Pierce, dans le film ? Je n'ai pas souvenir.
Non.
C'est dommage, non, ça non, aurait non, été non, impeccable.
Il est censé avoir des ascendances françaises, c'est ça ? J'ai lu ça dans le dictionnaire du rock.
Jeffrey ?
Ouais.
Rimbaud ?
Ouais, non.
Rimbaud, alors non. Là, on a les scoops ce soir.
Non, parce que là, bon, si, j'ai lu. Je suis appelé un Ardennais, donc on est obligé de parler de Rimbaud.
Vas-y.
Parce qu'on a quelque chose, c'est-à-dire une reprise qui date de 1982 d'un groupe français qui s'intitule Désiré Landru et qui a calé un texte de Rimbaud qui s'intitule Cœur volé. Je ne sais plus sur, c'est dans quoi Cœur volé. Je sais pas, dans une saison l'enfer, c'est avant, je sais plus.
C'est sur quel label ?
Ça doit être, je me souviens plus, mais je crois que c'est une autoproduction belge de 1890. Et donc voilà, c'est des gens qui en 82, c'est-à-dire un an après la sortie du Gun Club, ont calé une poésie de Rimbaud sur le rite de Sex Beat. Donc on voulait te faire écouter ça, si ça, voilà. Donc on envoie ça. Donc c'est Désiré Landru, Cœur volé, et c'est de 1982. Voilà, hommage à Seb avec Jingle Bells à la fin, vous avez remarqué, côté américain, joyeux. Merci. Voilà donc une découverte pour vous de reprise du Gun Club, et là on le dit, c'est un an après que le disque soit sorti, enfin que ça soit trouvable en France.
Magnifique en tout cas.
Alors l'opération Kangourou tient à vous faire savoir qu'il y avait encore plein de ce collector-là à vendre très cher.
Non, mais on va attendre. Il y a un truc, c'est que maintenant qu'on l'a passé, on va attendre 3-4 mois et on va tout mettre sur eBay. Parce qu'il nous en reste...
Ah, c'est vrai que c'est un enregistrement de Désiré Landru, mais le 45 tours est sorti sous le nom Les Combinaisons. Un peu plus tard.
En 89.
Ouais.
Pour tromper l'ennemi.
Et ça passe pour la première fois à la radio maintenant.
On a mis le temps. Donc on écoutera à la fin de l'année un morceau de Jeffrey Lee Pierce à la fin. Donc Lucky Jim, extrait du 33 tours Drinking from Puddle sur King Rock. Donc un disque qu'on m'a amené il n'y a pas plus tard que hier. Mais comme je devais regarder le film, que j'avais pas mal bu et... Parce que...
On peut pas tout faire.
Ah, je vais vous expliquer comment ça marche, le cinéma. C'est-à-dire, y a un producteur qui sort ça en vidéo, qui fait « Tu peux inviter quelqu'un sur un film de Jeffrey Lee Pierce ?» Non, c'est pas le propos de l'émission. Il fait « Bah, j'ai un truc à boire et tout. » Et après, vous vous saoulez la tronche pendant toute une soirée. Vous allez au bord du canal Saint-Martin, vous discutez de surréalisme, d'Arthur Cravan et tout. Et le lendemain matin, vous avez signé un contrat. Vous êtes pieds et mains liés pour parler de Jeffrey Lee Pierce. Voilà.
Et il y a pire quand même, il y a pire. Tu vois pas.
Il y a pire, mais le problème, c'est que vous voyez le film dans le même état. C'est-à-dire, avec vous avez une espèce d'état. Mais de l'autre côté, Jeffrey Lee Pierce, ça, c'est peut-être la seule chose qui m'a rassuré dans le film. Il est pire que moi.
Ça, je peux pas. Je peux pas témoigner, mais.
Bah oui, il est mort.
Bah ouais,
voilà, il est mort. Ouais. C'est...
Non, non, et point de vue âge. C'est-à-dire, moi, 33 ans. Maintenant, ouais. Voilà. Parce que moi, je pensais qu'il y avait 53 ans dans le film. Et...
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de marquant dans le film, mon cher derrière?
Qui parle beaucoup de sa femme qui l'est quittée. Ce
ça,
qui
c'est une chose qui arrive.
Voilà.
Quand on en a une.
Qui fait très fatigué, qui n'est plus beaucoup de choses auxquelles s'accrocher. C'est un peu ça quand même. Il a des problèmes même d'appartement. J'essaye de me souvenir par bribes du film que j'ai vu. Mais
là, il avait des problèmes de tout en fait. Hein.
Oui, c'est ça, c'est que tout se confond. Et puis il dit à sa mère qu'il va arrêter de boire et puis elle se fait les ongles.
Alors elle a très honte de son fils en fait.
Ah c'est ça, je me demandais, j'ai quelque chose pas compris un peu comme cette ça, scène en fait.
Il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça en fait, quand, dès qu'il essaie de parler sérieusement, elle essaie de changer de conversation et surtout qu'il ne se dévoile pas trop, donc la scène est un peu à l'image du film quoi, festive.
Alors c'est pas la scène, je l'ai pas du tout compris parce que moi je l'ai compris qu'elle le connaissait un peu par cœur en fait. Et qu'elle était
bon, vaguement, c'est son fils. Hein, mais...
Non, mais qu'elle était habituée à ce discours, donc elle y faisait plus attention. En fait, non, c'est qu'elle essaye de détourner l'attention sur autre chose.
Elle a apparemment pas envie qu'il parle de Romy, d'alcool. En fait, elle a envie, j'imagine, qu'il soit dans un cadre d'interview un peu plus convenu.
Plus cadré, voilà. Convenu, d'accord. Ouais. Ah oui, mais donc en plus, j'ai rien compris. Au film, parce que. Non, mais c'est vrai que moi j'avais vraiment cette impression-là. Que
non, mais les autres lectures sont les bienvenues. Ouais.
Et donc, oui, donc je me souviens de ses amis, je me souviens quand il chante et il prend quoi. C'est de la méthadone à un moment, je me souviens plus.
Ben, en fait, oui, il explique voilà, un système médical qui n'a pas été très probant pour lui. Quoi. C'est-à-dire qu'il est resté, junkie, mais à autre chose. Quoi.
Bah, ouais. Oui, la méthadone, c'est connu pour marcher comme ça.
Oui.
Parce que bah il boit un peu, hein, on le voit dans le film.
Un petit peu.
Ouais.
Bon, il était plus à l'héro, donc aussi il fallait faire quelque chose quoi.
Oui, il faut compenser.
Voilà.
Moi qui n'ai jamais été à l'héroïne, j'ai compensé quand même tout de suite dès 15 ans.
Ça c'est le talent. Ça,
c'est le talent, c'est que j'ai sauté une étape.
Le substitut s'est imposé lui-même, t'as pas eu besoin. Hein.
Et donc dans les conditions dans lesquelles t'as tourné ça en fait, est-ce que c'est un ami à toi déjà, je me demandais.
Bon, ça l'est devenu, mais un peu, c'était la moindre des choses. Il était tellement seul aussi.
Non, mais au départ, on n'a pas l'impression que vous connaissiez tant que ça.
Non, moi, je l'ai rencontré, c'est un peu, ce serait sûrement trop long, mais je l'ai rencontré en tout cas avec un bon statut de groupie. Moi, j'étais fan du Gun Club. Je cherchais à le rencontrer depuis longtemps. Et je me souviens quand Neurose m'a appelé en me disant « Venez le voir ». Il est là, il est dans nos locaux. J'étais en plein 3 jours du service et dans un état classique qui va avec ça, quoi, avec les substances qui vont avec.
Ça ne nous rajeunit pas ce genre d'anecdote.
Non. Et donc je suis arrivé, donc j'ai rencontré une espèce de baleine derrière un bureau et je pensais avoir...
C'est le boss de Neurose là. Non,
c'était Jeffrey Lee Pierce. Mais c'est vrai qu'ils étaient en corpulence, c'était à peu près, c'était frère. Mais je lui ai dit ça en pensant que ça, voilà, que ça ferait du dialogue et lui tout de suite en disant voilà que je m'étais mis dans cet état-là pour me faire réformer un peu comme comme tout le monde, et il s'insurgeait tout de suite. Il m'a dit, mais malheureux, c'est une chose magnifique, le service, il faut absolument faire ça. Qu'est-ce qui se passe ?
Gun Club, c'est vrai.
C'est une erreur fatale. Donc je me suis fait engueuler voilà, directement. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et, ça fait du dialogue.
Bah toi, tu...
Non, mais je voulais surtout te demander, et après, comment ça s'est passé pour le filmer ? Quelle était l'idée de...
En fait,
tu as été à Londres avec l'idée de le filmer ? Tu l'avais prévenu avant ?
Non, en fait, c'était une espèce de journal de bord, parce qu'on travaillait sur complètement autre chose, qui était un projet de fiction avec Jeffrey, qui était un film français dans lequel... il n'aurait pas tenu son propre rôle, mais en tout cas celui d'un Américain. Et donc, on travaillait ensemble sur le scénario. Et donc, je passais le voir régulièrement. En tout cas, 2-3 fois, j'ai passé quelques jours là-bas pour en parler avec lui. Et je filmais voilà, pour tenir une espèce de journal avec lui. Mais je ne savais pas où ça irait, ce que ça deviendrait. C'était pas, voilà, il n'y avait rien d'arrêté.
Et lui, qui était sa réaction ? Je veux dire, il était naturel pendant le film. Et t'as filmé à peu près tout le temps ou...
Encore une fois, il était seul. Mais ouais. Incroyablement seul, Jeffrey. Ouais. Donc,
mais il en parle tout le temps, en fait, de sa rupture. Enfin, ça n'arrête pas, le côté...
Oui, mais alors, il y a deux choses là-dedans. Bon, déjà, il était seul, mais il y a aussi le fait qu'il... Je pense qu'il avait quand même... Il savait ce qu'était la fiction et il savait comment en faire sur des bases documentaires. Et je pense que très, très vite, en discutant un petit peu avec lui, il avait compris que le sujet était là, c'est-à-dire sa rupture, etc. etc. Ouais. Donc, ouais. Il était assez malin aussi, entre guillemets, avec ça, et assez généreux. Donc voilà, il s'était dit, il y a un sujet là. Donc,
il y a un sujet, mais en même temps, c'est bon de le travailler réellement.
Oui, clairement. Oui. Non, c'était récent. Et puis il y avait surtout, je pense que Jeffrey était, voulait un enfant et Romy voilà, était en train d'en faire un avec son batteur. Donc il y avait plus qu'un sujet en fait. Voilà.
Son vrai batteur, pas un type.
Ouais, puis une autre question aussi, alors qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie, plus de 20 ans après sa mort, d'en faire un film, en fait ?
La question, c'est plutôt, en fait, qu'est-ce qui, pendant 15 ans, a fait que je ne pouvais pas tellement en faire un film, parce que moi, je les avais, les rushs, je ne les ai jamais revus, parce que sa disparition, honnêtement, était un peu tragique. Moi, j'aurais dû être, je devais être là avec lui ce jour-là. Alors évidemment, même si c'est une hémorragie cérébrale et qu'en général, on ne peut pas faire grand-chose.
Il est mort aux États-Unis, c'est ça ?
Il est mort aux États-Unis, oui, chez son père.
Je ne sais pas. Est-ce
qu'il est retourné aux États-Unis, en fait ?
Voilà, 2 ans après, il est retourné aux États-Unis.
Et il a fait une paire de concerts ?
Il a fait quelques concerts et puis il se lançait dans plein de projets divers, effectivement.
Donc, j'ai appris ça tout à l'heure, voilà, du rap japonais.
Du rap japonais, du gangster rap version gentille aussi, ce qui était un truc qui tenait très à cœur. Et non, voilà, donc il est mort chez son père, où il s'était réfugié un petit peu aux États-Unis.
Parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que le dernier morceau de Jeffrey Lipier, je l'ai appris, c'est un morceau de hip-hop, enfin de rap.
Ouais, une reprise de Tom
Waits. Ouais, c'est une reprise de Tom Waits, quasiment parlé, ouais, comme je le disais, c'est la seule fois, je pense, où on a entendu son timbre un peu naturel, hein, qui était elle est vachement bien, elle est sur une compile de reprises de Tom Waits diverses. Et là, il avait pris un très vieux morceau, il l'avait rappé, mais effectivement, c'était dans ses projets, c'est ça qu'il voulait faire, je pense qu'il voulait s'éloigner le plus possible de toute la scène punk rock, etc. etc. Enfin, il s'y sentait pas.
Et même de l'image, en fait, que les gens avaient de lui, en fait.
Oui. Mais il avait un rapport beaucoup plus large à la musique que celui-là. Voilà, c'était un fan.
Puis je crois qu'il était un peu aussi has-been sur cette scène-là. Tout le monde n'est pas comme nous en France, où on aime bien ce côté loser, magnifique, has-been. Aux États-Unis, comme au Japon, oui, c'était le moment il a vécu au Japon.
Tu veux dire qu'on pourrait marcher au Japon, nous ?
Ouais. Nous qui ne sommes pas du tout losers, n'est-ce pas ?
Bah, on est losers, mais c'est le côté magnifique où on pêche un peu.
Non, c'est vrai qu'il était. Oui, mais même en France, hein, c'était pas, contrairement à ce qu'on croit, c'était pas si glorifié que ça. Hein. Les articles qu'il y a eu à la mort de Jeffrey étaient quand même assez retentissants là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'était mort d'un loser, globalement.
Ouais, mais je pense qu'il aurait pu tourner en France, il aurait pu peut-être mieux faire qu'en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, c'est un avis, encore.
Il l'a fait un petit peu, mais de toute façon, aux États-Unis, il avait rien à perdre, c'est-à-dire qu'il y était quand même globalement inconnu, alors qu'en France, il y avait une espèce de notoriété, donc voilà, il est plus vite tombé dans la loose que là-bas, puisque là-bas, il n'était pas connu, de toute façon. Ouais.
Voilà, messieurs, je suis désolé de vous couper, c'est passionnant.
En tout cas, merci pour ce DVD.
De rien,
un beau témoignage sur Jeffrey Lipier, c'est un des...
Voilà donc.
Un des grands génies du rock'n'roll.
On rappelle les.
On vous rappelle les références et les coordonnées. Donc c'est Hard Times Killing Floor Blues. Donc de Henri-Jean Debon. Donc si ça vous tient vraiment à cœur de l'acheter en magasin, vous allez à Born Bad ou vous pouvez le trouver. Autrement, vous le commandez sur le site de Choses Vues. Est-ce que tu as l'adresse exacte en tête?
Chose au pluriel tiré vue.
Voilà, 3W machin. Chose
VU.
VU. Chosevue.com. Voilà. Eh bien, merci bien, Henri-Jean.
Et Henri-Jean,
je l'appelle Henri-Jean, parce que moi-même, mon vrai nom étant Julien Marie, je veux dire que je comprends un peu tout ce qu'il a pu subir. Donc...
Est-ce qu'on retrouve Henri-Jean dans Constreuil bientôt? C'est fixé?
J'ai pas entendu, en fait.
Est-ce qu'on te retrouve dans Constreuil bientôt, l'émission Ponk?
Dimanche.
Ah, il paraît.
Ouais, ouais. Voilà. Ouais.
Bah voilà, écoutez, ouais, Constreuil.
Voilà, écoutez, voilà. Constreuil, la suite. Ça sera, oui, puis ça sera sans doute moins stupide. En plus, je suis sûr qu'ils ont regardé le film à jeun, parce que c'est des punks, c'est côté straight edge. Ça ne boit que de la limonade.
Ça va pas être fun. Hein.
Ah bah, voilà. Voilà, et bah merci donc. Et donc, vous pouvez retrouver. Et là, on écoute donc Jeffrey Lee Pierce. Alors, c'est quoi le morceau? Je me suis
rendu compte.
Donc, qui est un extrait de quelque chose qui. Non, on se plante là. Lucky Jim, voilà. Il y a un extrait de quelque chose qu'il a chanté sur une radio. Alors ça a l'air d'être californien, mais je suis pas sûr.
C'est la KBVA-FM. Voilà. 88.7 pour ceux qui nous écoutent de Californie.
Ouais, c'est pour ceux qui écoutent de Californie.
Your mistress has it on. Back to the dances. The smoking dance has started on. Life's on an answer. Now one goes to the war. There is none to go to.